Macro-Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de notre magazine Micro-Rebelle Hebdo, écoutable sur micro-rebelle.fr et en rediffusion chez nos amis de Radio PFM 99.9 à Arras le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Comme chaque semaine, actualité sociale, politique, écologique, féministe, antiraciste, anticapitaliste, durant cette émission. Autour de la table, donc, je suis Lucien. Luc est à la technique.
Salut à toutes et à tous.
Et comme tous les 15 jours, nous avons notre ami Olivier.
Salut à tout le monde.
Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour à tout le monde.
Donc Jean-Michel, on aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Il est déjà intervenu à Micro-Rebelle, mais on aura l'occasion d'y revenir. Au sommaire aujourd'hui, donc agenda social, culturel, actualité et revue de presse. Et puis donc échange avec Jean-Michel. Il y sera question de la gestion de l'eau, notamment sur le territoire de l'agglomération de Lens-Liévin. Je précise que, comme la semaine dernière, notre amie Aurélie n'est pas parmi nous. Hein. Aurélie est revenue il y a 15 jours d'un séjour à Venise et donc elle est toujours en quarantaine, plus exactement en quatorzaine. Agenda social et culturel. Luc ?
C'est toi qui commences, Lucien, normalement.
C'est moi qui commence. Eh bien, alors je vais donc commencer sans coup férir. En vous évoquant le samedi 7 mars, un chantier de plantation. Action de plantation sur le verger de la zone maraîchère de Loison-sous-Lens. Vous pouvez venir avec vos bottes, vos gants, votre bonne humeur. C'est un chantier avec la participation, bien sûr, du maraîcher, hein, Jonathan Bétermier, qui a acquis cette parcelle à Loison-sous-Lens. Le rendez-vous est au 95 rue Georges de Vouges, à partir de 9h. Le déjeuner se fait sous forme d'une auberge espagnole. Il est possible qu'il pleuve. Pensez à prévoir des bottes.
Du 4 au 18 mars, Culture Commune, scène nationale du bassin minier, propose Qu'est-ce qu'on fabrique en famille ? Avec une belle accroche. Venez vivre en famille des moments forts et surprenants, le temps d'un week-end fait de douceur, d'émotions, de rire et d'instants partagés. Il y aura un temps fort les 7 et 8 mars avec de nombreux spectacles et ateliers. À noter que le 7 mars de 14h à 16h, nous, Micro-Rebelles, participerons à cette initiative et nous installerons un sonomaton. Tout ça se passe à Culture Commune sur la base du 11-19 à Losangoël, tout près de la cité des provinces de Lens.
Alors ce week-end, hein, 7 et 8 mars, le 8 mars c'est la journée de lutte pour les droits des femmes. Donc il y a de nombreuses initiatives sur le territoire à cette occasion. Et je commence par vous évoquer un bal folk féministe. Ça se passe à Angres en soirée. L'accueil c'est à partir de 19h30 et le bal folk en lui-même démarre à 20h30. C'est avec un groupe folk qui, à l'occasion, est là également pour apprendre les participantes et participants les danses sur lesquelles ils vont jouer. Donc c'est organisé par le groupe de Angres du planning familial pour réenchanter la vie des femmes. C'est le slogan qu'elles se sont choisis. Et donc ça se passe à la salle des fêtes d'Angres. Samedi 7 mars, accueil à 19h30 et bal folk à 20h30.
Samedi 7 mars, toujours, Lettre à Nour, c'est une pièce de théâtre qui sera jouée à 20h au Colisée. Colisée, c'est rue de Paris à Lens. Nour a 20 ans, elle décide de quitter son pays, sa famille, ses amis pour rejoindre en Irak l'homme qu'elle a épousé, un lieutenant de Daesh. Une décision à laquelle ne peut se résoudre son père, brillant universitaire, musulman et pratiquant, et épris de la philosophie des Lumières. Les tarifs sont de 12,50 euros sont de 12,50€ et 25€. Renseignements et réservations au 03 21 28 37 41. Lettre à Nours, c'est à 20€ au Colisée, samedi 7 mars.
Alors toujours dans le cadre de la journée du 8 mars, une journée de lutte pour les droits des femmes, une pièce de théâtre à l'espace Ronnie Cooter de Grenay avec un titre assez parlant. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Quatre actrices racontent quatre épisodes clés de l'histoire des femmes. Les suffragettes en Angleterre et leur lutte pour le droit de vote en 1913. Les féministes en France pour le droit à l'avortement en 1971. La jeune Malala au Pakistan pour le droit à l'éducation en 2012. Et les Femen en Ukraine contre les dictateurs et les prédicateurs religieux, avec, durant cette pièce de théâtre, une projection dans le futur. C'est donc un regard sur le siècle et l'évolution du droit des femmes, ses énormes progrès et ses moments de régression. Ne dit-on pas qu'on peut mesurer la santé d'une démocratie à la manière dont elle traite les femmes et les homosexuels ? Donc, pièce de théâtre, nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. C'est à l'espace Ronnie Cooter de Grenay, à 14h30, le dimanche 8 mars, tarif de 3 à 6€, gratuit pour les grenésiennes.
Lundi 9 mars, qui est Murray Bookchin ? C'est une conférence qui sera donnée de 19h à 21h au Polder, 250 rue Roger Salengro à Lille. C'est une conférence donc donnée par Floréal Romero qui vulgarise et entretient depuis quelques années l'œuvre de l'écologiste américain Murray Bookchin, notamment avec « Agir ici et maintenant » et « Murray Bookchin et l'écologie sociale libertaire ». En une traînée de poudre, le municipalisme est devenu le mot d'ordre d'une partie de la gauche, des franges dites citoyennistes jusqu'à certains radicaux. Dans le contexte des élections locales, il nous a semblé utile de revenir sur le municipalisme libertaire tel que l'a énoncé Murray Bookchin. Bookchin ne voudrait pas démocratiser les métropoles ni les rendre plus inclusives. Il n'opterait pas pour des civic tech qui rapprocheraient les décideurs des décidés. Il ne souhaiterait pas une meilleure participation des habitants. Il n'appellerait pas à la construction de listes citoyennes. Bookchin dénoncerait même l'expérience municipale de Barcelona en Comú. Si tout cela n'a rien à voir avec Murray Bookchin, mais qui donc est Murray Bookchin ? Venez au Polder ce lundi 9 mars pour en savoir plus.
Le lendemain, le mardi 10 mars, ça se passe au LAG et c'est une initiative culturelle, un apprentissage de la guitare et répétition de chant en chorale. À 18h30 au LAG guitare et à 19h chorale, ce sont des chants de lutte et d'espoir au LAG 23 avenue Jean Jaurès à Liévin.
Toujours en rapport avec la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, mais cette fois le rendez-vous est donné le 10 mars, c'est le CDFF d'Arras qui organise au théâtre d'Arras à 20h une représentation de la pièce et pendant ce temps Simone Veil de Trinidad. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CDFF d'Arras au 03 21 23 27 53.
On reste dans la même thématique, hein. Avec cette pièce de théâtre, ce spectacle plutôt, au titre assez, je dirais, provocateur, « Les femmes ont-elles une âme ?» Ça se passe à l'hôtel de Guine à Arras, hein, donc deux rues des Jongleurs, et c'est un spectacle qui apprend beaucoup sur l'histoire méconnue du combat des femmes pour exister. Ce spectacle, « Le combat des femmes pour exister, les femmes ont-elles une âme hein, ?» Les femmes doivent-elles être considérées comme des êtres humains à part entière, et cela depuis les temps les plus anciens. Donc effectivement, au ton humoristique, parfois, rappé ou slamé, répond une guitare électrique qui joue sur les cordes de la colère, du rire, du désespoir. C'est donc ce jeudi 12 mars à 19h30 à l'hôtel de Guine à Arras.
Vendredi 13 mars à 18h30... une conférence Robespierre, un révolutionnaire comme les autres. Elle sera donnée par Jean-Clément Martin, qui est historien, professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon, Sorbonne. Il est donc l'invité de l'ARBR, l'Association des Amis de Robespierre. Et elle sera donnée à l'Office culturel d'Arras, aux deux rues de la 12e à Arras. L'entrée est libre.
Le vendredi 13 mars, spectacle, théâtre, Contraction. C'est un face-à-face impitoyable mais drôle entre une employée et sa manager, ou comment les nouveaux modes de management, présentant l'entreprise comme une grande famille, aliènent peu à peu leurs employés. On va rire d'effroi devant l'horreur et l'absurdité de la situation, mais on va rire. C'est donc Contraction et ça se passe à l'espace culturel La Gare de Méricourt, vendredi 13 mars à 19h.
Et vendredi 13 mars, toujours, la nuit juste avant les forêts. La nuit, la pluie, un homme accoste un inconnu dans la rue. Il est étranger, saoul ou dérangé. Ses propos sont décousus mais l'homme s'entête, il faut qu'il se fasse comprendre. Coltès écrit en 1977 un texte brûlant, aujourd'hui politiquement explosif à l'heure des colères qui embrasent peu à peu la France, l'Europe et le monde. Il convoque Marx, Shakespeare et Rimbaud dans un texte fulgurant où il embrasse philosophie, économie, romanesque et politique, portée à hauteur d'homme. Nous proposons aux spectateurs de traverser le miroir avec nous dans une expérience sensible et tangible, faire l'expérience troublante de ce catalogue immédiat de la différence qui rend l'autre étranger dans son altérité si reconnaissable et radicale, pour ensuite le saisir par surprise de cette intimité universelle, être en vie. C'est donc une pièce de théâtre qui est jouée par la compagnie Bord Cadre et elle le sera à 20h30, salle Louis Aragon, à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion. Tarif 4 et 6 euros.
Et enfin, une dernière annonce, hein, un petit peu en avance, hein, mais comme c'est un événement qu'on aime plutôt bien, c'est le festival Bobine Rebelle, Bobine Rebelle 2020, le 8e festival. Hein, c'est un festival qui maintenant est bien enraciné dans le paysage du bassin minier, du Pas-de-Calais et au-delà. Donc le festival Bobine Rebelle, c'est un festival documentaire, d'auteur social et politique, avec une particularité, chaque documentaire est projeté en présence de la réalisatrice ou du réalisateur, de façon à permettre un échange à l'issue de la projection. Donc il y a différents thèmes hein, cette année. Je vous laisse consulter le programme sur le site du LAG, lelag.fr, puisque ce festival Bobine Rebelle se tient intégralement au LAG. La soirée d'ouverture, c'est le vendredi 3 avril. Et ensuite, c'est toute la journée du samedi 4 avril, ce festival se clôturant par un repas fraternel. Et bien donc, cet agenda social et culturel se termine. Je vous propose maintenant peut-être quelques brèves d'actualité, tirées de l'actualité du moment et de la revue de presse. Donc on va faire ça à deux voix, encore une fois. Je vais commencer par vous parler du coronavirus. Je pense que c'est le passage obligé en ce moment. Quand on ouvre son poste de radio, on y a systématiquement droit. Alors peut-être rappeler un petit peu où en est la situation à l'heure où je vous parle. 91 pays sont touchés sur les 5 continents. Plus de 3400 décès, bon c'est vrai majoritairement en Chine. En France, le nombre de décès augmente hein, et donc on nous annonce que la France se prépare au stade 3, autrement dit, situation d'épidémie. Alors on ne va pas en rajouter ici, hein, on en a déjà parlé, je pense qu'on aura l'occasion également d'y revenir. Disons simplement que la question qui nous semble essentielle est assez simple. Le système sanitaire français saura-t-il faire face à cette épidémie ? Deuxième info sur laquelle j'avais envie de revenir cette semaine, c'est le 49.3. Hein, on en a aussi un peu parlé. Alors le 49.3, c'est un moyen très efficace hein, finalement de s'asseoir sur l'opinion de la majorité des Françaises et des Français sans parler du travail parlementaire. Alors ceci étant, cette semaine, cette mise en branle du 49.3 a entraîné de nouvelles manifestations. Ça a été un peu relayé dans la presse. Hein. On peut notamment citer ce titre de La Voix du Nord, « Retraite, 1500 manifestants contre l'usage du 49.3 en région ». Alors un titre dans La Voix du Nord maintenant, « Lens en queue de peloton au baromètre des villes cyclables 2019 ». Donc c'est une enquête qui a été publiée au mois au début de ce mois de février, une enquête menée par la FUB, la Fédération des usagers de bicyclettes, qui a invité les usagers du vélo Lensois à donner leur avis sur la pratique dans la ville. Le résultat, dans la catégorie des villes de 20 000 à 50 000 habitants, le fief Saint-Héor est bien loin du maillot jaune. Je cite La Voix du Nord. Alors donc La Voix du Nord détaille un peu l'enquête qui a été menée. C'est une enquête d'ampleur nationale menée auprès des usagers du vélo par la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, via Internet. 26 questions classées en 5 thèmes. Sécurité, confort, etc. ont été posées aux cyclistes du pays. Les sondés ont attribué à chaque question une note de 1, très mauvais, à 6, excellent. Chaque ville obtient alors une note globale. En fonction de cette note, les villes sont catégorisées sur une échelle de A+, ce sont les villes qui obtiennent plus de 4,6, à G, moins de 2,3, allant de climat vélo excellent à climat vélo très défavorable. Donc à l'échelle du pays, précise La Voix du Nord, 184 000 réponses ont été récoltées et 768 communes classées. Seules les communes ayant récolté un minimum de 50 réponses de cyclistes ont été classées, précise l'enquête. À Lens, 57 personnes ont participé à l'enquête. À titre de comparaison, dans la région, 176 cyclistes se sont exprimés à Lille, 73 à Valenciennes et 57 à Maubeuge. Les notes marginales susceptibles de pouler l'enquête ont été écartées. Alors les résultats, dans sa catégorie des villes de 20 000 à 50 000 habitants, Lens obtient une note de 2,56, classant la ville en catégorie F avec un climat vélo défavorable. De quoi figurer en queue de peloton dans le palmarès régional, juste devant Maubeuge, 2,14, et Cambrai, 2,03. Mais derrière le duo de tête Dunkerque, 3,51, et Neuchâtel-Ardelot, 3,79. Alors l'article ne parle pas de Liévin. Je présume que c'est parce que trop peu de cyclistes ont pu être interrogés. Ceci étant, on peut supposer que la situation n'y est pas très différente. Alors, une autre information sur laquelle je souhaitais venir. Ce titre dans La Voix du Nord, un SDF s'introduit dans le Auchan et vole de l'argent. Donc, ça se passe à Lens. Je ne sais pas dans quel Auchan ça s'est exactement passé. L'article ne le précise pas. Mais en gros, je vous donne un peu le contexte. Le SDF s'est introduit dans ce Auchan et a volé un butin en pièces de 1, 2 et 5 centimes, un butin qui s'élève à 183 euros. L'argent était hors du coffre. L'article précise, placé en garde à vue, l'homme reconnaît immédiatement les faits et écope d'une convocation devant un officier de police judiciaire pour répondre de ses actes, le 9 juin prochain, au tribunal de Béthune. Pour l'heure, il a été déféré et incarcéré à la prison de Béthune, car il avait trois peines à purger pour des délits antérieurs. Voilà, donc ça m'a fait me poser une question que l'article n'évoque pas. Et si on parlait des profits de la famille Mullier, le propriétaire de Auchan ? Ma toute dernière actualité, c'est pour vous parler de Mohamed Lakel. Mohamed Lakel, c'est un Algérien qui a été expulsé il y a 6 mois. Et donc, le collectif des sans-papiers du Nord fait une campagne de mobilisation pour que Mohamed Lakel revienne en France. Et cette campagne, elle se présente sous la forme de cartes postales à adresser au préfet. Alors, je vous lis un peu le communiqué du CSP 59, le comité des sans-papiers du Nord. Afin de rendre notre message encore plus audible, nous nous mobilisons pour récolter les messages de soutien et les envoyer au préfet sous forme de carte postale. Nous avons besoin de vous pour imprimer, signer et faire signer ces cartes avec un message clair et simple à adresser au préfet. Mohamed doit rentrer, sa vie est ici. L'objectif est de récolter 1000 cartes postales avant le 30 mars, jour où nous les rassemblerons au local du CSP, 42 rue Bernos, à l'île Five, afin de prendre date pour aller les déposer en main propre. Voilà, donc n'hésitez pas à solliciter le comité des sans-papiers 59 de façon à vous aussi participer à cette initiative 1000 cartes postales adressée au préfet. Eh bien, je tends le micro-témoin à notre ami Olivier.
Merci Lucien. Et dans la presse cette semaine, il est question d'un ultime coup tordu et Denis Siffert dans Politis nous apostrophe sur l'article 49, alinéa 3 de la Constitution française. Extrait. Cet alinéa honteux qui rationalise si fortement le parlementarisme, comme disent les constitutionnalistes amoureux de litote. C'est l'ultime coup tordu après bien d'autres. Il faudrait faire l'inventaire des entourloupettes qui ont jalonné ce conflit. La première, fondatrice si j'ose dire, c'est évidemment la fable d'un Emmanuel Macron élu sur un programme qui comportait la réforme des retraites. Cette première imposture a déterminé toutes les autres. Le système Macron ne répond peut-être pas à des pulsions totalitaires, au sens où Hannah Arendt employait le mot, mais il est assurément et gravement antidémocratique. L'histoire, cependant, est loin d'être finie. Le débat va tout de même se prolonger au Parlement, passer par le Sénat et revenir à l'Assemblée. Il aura lieu sur la loi dite organique qui va faire éclore quelques vérités. Le texte ne prévoit en effet que le système soit équilibré ou financièrement rééquilibré tous les 5 ans, ce qui permet d'entrevoir le véritable enjeu financier de la réforme et l'extrême fragilité du système par points. Comment va-t-on s'y prendre en cas de difficulté ? D'évaluer le point ou allonger encore la durée du travail ? Il y a là matière à un autre débat musclé. Mais surtout, l'histoire risque aussi de sortir du cadre institutionnel. On n'emprisonne pas impunément une opinion majoritaire. On ne ferme pas sans risque toutes les issues démocratiques. Nous verrons si la mobilisation se relance. Nous verrons aussi les conséquences électorales. Mais le risque maintenant ou plus tard est celui de la réaction imprévisible d'un pays qui aura été blessé dans ses principes les plus fondamentaux. Dans Le Monde de cette semaine, je lis qu'après l'ouverture des frontières aux migrants décidée par la Turquie, les ministres européens de l'Intérieur et de la Migration ont tenté de ne pas froisser Ankara tout en soutenant Athènes. D'une part, ne pas cabrer davantage la Turquie, qui n'est pas une ennemie, insistait mercredi 4 mars la commissaire aux affaires intérieures. D'autre part, soutenir clairement la Grèce, quitte à taire les critiques portées habituellement contre cet État membre pour sa gestion chaotique depuis 2015 de la question migratoire. Tel était le double objectif de la réunion extraordinaire des ministres européens de l'Intérieur et de la migration à Bruxelles, mercredi 4 mars, tandis que la diplomatie des 27 tente à tout prix d'écarter le risque d'une nouvelle crise de grande ampleur. Sur l'insistance de l'Allemagne, les ministres n'ont pas condamné l'ouverture des frontières aux migrants décidée par le président Erdogan. C'était la formule retenue au départ. Elle a finalement été remplacée par le ferme rejet de l'usage de la pression migratoire à des fins politiques. Mercredi, le président du Conseil Charles Michel et le représentant Joseph Borrell étaient eux à Ankara pour une discussion qualifiée de franche avec le président turc. Et ce vendredi, les ministres des Affaires étrangères s'efforceront à Zagreb d'adopter une position face au risque de confrontation internationale majeure que décrit M. Borrell quand il évoque la Syrie. M. Erdogan, lui, lit en tout cas clairement la question de la migration et celle de la guerre, appelant les pays de l'Union à assumer leur part du fardeau dans l'accueil des migrants et des réfugiés. Il a redit mercredi à ses interlocuteurs européens qu'une solution à la crise migratoire passait par un soutien à son pays dans son combat contre les forces de Bachar al-Assad en Syrie. M. Borrell a répondu en promettant seulement une aide d'urgence de 170 millions d'euros pour faire face à la situation humanitaire dramatique née de l'offensive déclenchée en décembre dernier par le régime de Damas dans la région d'Idlib. Le quotidien Reporter me raconte qu'en France, le municipalisme libertaire trace son chemin. La démocratie directe fait son retour en France. une bataille culturelle dont les soubassements théoriques reposent en grande partie sur la pensée de l'américain, de l'intellectuel américain Murray Bookchin. Son municipalisme libertaire inspire les listes citoyennes aux municipales, comme il inspirait les Gilets jaunes ou la révolution kurde du Rojava. Depuis 2012, les écrits de Murray Bookchin alimentent aussi la révolution kurde du Rojava, au nord de la Syrie, où se dessine un modèle de société alliant multiculturalisme, démocratie directe et écologie. L'intellectuel états-unien, mort en 2006, semble désormais inspirer plusieurs des listes citoyennes qui se lancent dans le combat des élections municipales en France. Certaines d'entre elles se sont rencontrées fin janvier dans la Meuse pour poser les premiers jalons du municipalisme et réfléchir à une possible confédération baptisée la Commune des communes. L'intellectuel qui a été tour à tour ouvrier, syndicaliste, professeur, a consacré sa vie à élaborer un projet de société qui permettrait aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier leur existence en reprenant le pouvoir par la base. Le champ politique est réduit à une peau de chagrin, séquestré par les partis dominants et inféodés aux grands groupes, constatait-il, avant de proposer de remplacer l'État, l'urbanisation, la hiérarchie et le capitalisme par des institutions de démocratie directe et de coopération. Dans son modèle baptisé le municipalisme libertaire, la commune doit devenir la cellule véritable de la vie politique. Elle serait constituée de communautés autonomes à taille humaine, regroupées en confédérations. Les décisions législatives seraient prises en assemblée ouverte, au vote à la majorité, avec des conseils de délégués révocables et désignés éventuellement par tirage au sort. Il exécuterait les tâches décidées par les assemblées communales qui administreraient l'ensemble des questions de production et de biens au niveau local. Je terminerai cette revue de presse par un coup de cœur aux éditions La Découverte, Économie du bonheur par Lucie Davoine. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Si psychologues et sociologues se penchent sur ce sujet, l'économie peut apporter des éléments de réponse à la question essentielle de la nature du bonheur. Au tournant des années 2000, le nombre d'articles et de livres publiés par des économistes sur le bonheur a crû de manière exponentielle. Comment expliquer une telle révolution en économie ? Quelles sont les méthodes et les principaux enseignements de l'économie du bonheur ? L'argent fait-il le bonheur ? Et la croissance économique s'accompagne-t-elle de mieux-être ? Si le rôle de la croissance constitue un débat fondateur et toujours vivant, d'autres questions animent les économistes, qui scrutent désormais l'évolution du bien-être au travail, mais aussi tout au long du cycle de vie et dans des contextes sociaux et culturels divers. Chômage, inégalité, démocratie en berne, environnement dégradé sont autant de facteurs qui contribuent à miner le moral. Le bonheur, une donnée éminemment individuelle, désormais sondée et mesurée, se retrouve au cœur de débats politiques. Donc c'est Économie du bonheur par Lucie Davoine aux éditions La Découverte.
Web radio indépendante de Bassa Mini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Oui, donc on est toujours sur micro-rebelle.fr ou en rediffusion chez nos amis de Radio PFM 99.9 à Arras pour notre émission hebdomadaire Micro-rebelle Hebdo. Deuxième partie de notre émission, nous sommes avec Jean-Michel Damien de l'association Au Secours 62 que nous remercions d'être en studio avec nous aujourd'hui. Alors le point de départ un petit peu de cette présence de Jean-Michel à Micro Rebelle, c'est le fait que l'association Au Secours 62 a envoyé une lettre à la presse, une lettre reproduisant un courrier adressé aux dirigeants de l'agglo de Lens-Liévin concernant les questions de l'eau et de l'assainissement. Donc on va y revenir, bien sûr. Mais auparavant, Jean-Michel, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est que Au Secours 62 et la façon dont Au Secours 62 appréhende les questions liées à l'eau.
Bon, alors, Au Secours, hein, donc, s'intéresse évidemment à l'eau, mais à l'eau dans sa globalité. Alors, je voudrais rappeler que si on regarde hein, l'eau dans sa globalité, on peut distinguer deux choses. Hein. Il y a d'abord la production, la distribution de l'eau d'alimentation, ainsi que l'assainissement des eaux usées. Hein, ça, c'est une première chose. Cette gestion est réalisée par maintenant par les communautés hein, depuis une des dernières lois qui s'appelle la loi NOTRe. Hein, ce sont les communautés qui doivent gérer cette eau. Et puis le deuxième aspect de l'eau, hein, c'est l'eau dans notre environnement qui est gérée par une structure qui se met en place tout doucement, hein, qui s'appelle la commission locale de l'eau, hein, qui intervient sur un territoire qu'on appelle le SAGE, c'est-à-dire le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Alors le SAGE, lui, intervient sur la totalité d'un bassin versant. Le nôtre, en l'occurrence, s'appelle le SAGE Marc Deul. Hein, et donc, si on prend ces deux rivières qui se rejoignent, la Marc et la Deul, hein, on trace un trait de crayon autour des affluents et on a le bassin versant. Voilà, ce SAGE est assez grand hein, dans notre région, puisqu'il part du Douaisis pour rejoindre le secteur lillois, hein, donc la communauté urbaine. Voilà. Bon, donc ce sont deux choses. Le rôle du SAGE, pour terminer avec ça, c'est de s'occuper de la qualité des eaux de nappe et des eaux de surface, des phénomènes d'érosion, inondation, de la répartition des usages de l'eau entre les usages domestiques, les agriculteurs et les industries. Donc, bon, voilà. Donc, deux choses différentes et deux structures différentes. Alors, Au Secours essaye de s'occuper un petit peu de ces deux aspects de l'eau, hein, donc la gestion de l'eau d'alimentation et l'eau dans son environnement, dans notre environnement. Hein, cette deuxième structure prendra de plus en plus d'importance avec le réchauffement climatique, hein, où il y aura sans doute, disons, des phénomènes un petit peu différents au niveau des pluies torrentielles, etc. Voilà.
Alors justement, quand tu parles des questions environnementales, ça fait aussi référence à la qualité de l'eau, d'une manière générale, et l'état de l'eau dans nos sous-sols. Je pense qu'on va y revenir. J'avais peut-être puisque l'association s'appelle Au Secours 62, quelle est la réalité concernant le premier point que tu viens d'évoquer, la gestion d'eau, quelle est la réalité dans le Pas-de-Calais de cette question de la gestion de l'eau?
Alors dans le Pas-de-Calais, on peut distinguer, donc je rappelle que maintenant l'eau d'alimentation et l'assainissement doivent être gérés dans les communautés, hein, que ce soit les communautés de communes, communautés urbaines ou communautés d'agglomération. Alors dans le Pas-de-Calais, on peut d'abord mettre en évidence les grandes agglomérations qui sont toutes en délégation de service public avec Veolia. Hein, donc Veolia est très présent dans le Pas-de-Calais. La deuxième grosse multinationale qui s'intéresse à la gestion de l'eau est en Suez Environnement. Hein. Alors, on trouve une gestion avec Veolia, par exemple, la communauté d'agglomération du Boulonnais, la CAB. On la trouve aussi à la communauté urbaine d'Arras, on la trouve à la CAL, bien sûr, et on la trouve à la CAC hein, et d'un Carvin, hein, et partiellement à l'agglo de Bruay-Béthune. Donc voilà, les grosses agglomérations sont, gérées par cette multinationale. D'un autre côté, on trouve pas mal de communautés de communes hein, qui sont un peu plus, en milieu rural. Des communautés de communes qui essayent tant bien que mal, comme elles doivent le faire, hein, d'harmoniser leur gestion. Et à l'intérieur, c'est le cas par exemple sur Bruay-Béthune, Là, bon, c'est quand même une grosse communauté, mais enfin bon, c'est la même chose, par exemple, à la communauté de communes des villages de l'Artois. On trouve à l'intérieur de leur périmètre, on trouve des gestions par des syndicats des eaux et puis des gestions également par des entreprises privées. En général, c'est aussi Veolia, hein, quelquefois un petit peu la sort. Bon, et on trouve également sur certains secteurs, donc une troisième catégorie, ce sont des communautés qui sont gérées par Noréad. Alors Noréad, c'est une grosse structure de gestion publique, hein, donc pas de dividendes, hein, pas de bénéfices, mais qui a à nos yeux un petit peu le désavantage, hein, d'être une structure encore fortement verticale. Hein. Et donc au secours, on le sait, donc au secours a comme principe une gestion publique de l'eau, puisque bon, l'eau étant un bien commun absolument indispensable et vital, il n'y a pas lieu, hein, de laisser cette gestion à des multinationales. Mais deuxième aspect, au secours souhaiterait que des représentants d'usagers participent à la gestion de l'eau. Et donc c'est totalement impossible avec une gestion déléguée au privé.
Alors justement, tu évoques DSP, délégation de services publics. Tu indiques géré par des multinationales. Est-ce que tu peux détailler, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu cette question de DSP, de gestion par des multinationales ?
Alors, on appelle DSP, enfin délégation, délégation au privé, les élus d'une communauté, hein, peuvent très bien, faire appel à une multinationale qui, encore une fois, donc, est Veolia ou Suez, et lui confier la gestion de l'eau. Hein, la gestion de l'eau, bon, donc, c'est-à-dire la gestion du réseau, la production de l'eau, les petits investissements, hein, tout en gardant, et c'est le cas dans bien des cas, tout en gardant ces communautés, en gardant la mainmise sur les gros investissements. Hein, ces gros investissements qui, bon, en général, sont réclamés, demandés, étudiés par les multinationales. Ce qui fait que les élus ont très peu à voir avec cette gestion, comme on le verra tout à l'heure, et notamment au niveau financier. Hein, donc c'est autre chose d'être maître d'ouvrage et de faire appel à une entreprise pour effectuer tel ou tel travaux. Hein, ces travaux et la surveillance de ces travaux et l'initiative de ces travaux, appartiennent à la maîtrise d'ouvrage. Hein. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose lorsque la gestion est en délégation de services publics.
Alors si tu le veux bien, on va peut-être resserrer un peu le territoire, on va maintenant se recentrer sur la CAL, la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins. Est-ce que tu peux revenir sur les deux axes que tu décrivais tout à l'heure, hein? Le premier axe, c'est la question de la gestion, et le deuxième axe qui concerne la nature de l'eau. Quelle est la réalité sur ce territoire, Lens-les-Vins, enfin sur l'agglomération d'une manière générale?
Bon, alors, sur Lens-les-Vins, hein, donc on parle de l'eau d'alimentation, hein. On parle de l'eau d'alimentation, donc Lens-les-Vins, c'est un... Bon, on a un sous-sol très, très troué, hein, c'est du gruyère, on le sait. Hein, et ce qui fait qu'on a un secteur qui est très sensible aux pollutions. À cause de ça, parce que l'eau est mal filtrée, on peut le comprendre. Alors sur Lens-les-Vins, 80% de l'eau provient du sous-sol. Hein, en France, l'eau potabilisée provient de captage, donc provient du sous-sol, ou bien provient d'eau de surface, eau de lac ou de rivière. Donc Lens-les-Vins, 80% de l'eau provient du sous-sol par 17 captages. 17 captages répartis sur le territoire. Alors, on peut noter qu'au fil des années, on a dû fermer 6 captages à cause des pollutions, hein, des pollutions qui concernent essentiellement les nitrates et le taux de nitrates et de phytosanitaires, hein, de pesticides. Donc, 17 captages. Beaucoup de captages, sont très proches, du maximum toléré en nitrate, hein, les 50 mg. On constate également des pics de pollution aux pesticides. Ce qui fait que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a été désignée au niveau national, hein, comme, pour participer à une opération qu'on appelle ORC, opération de reconquête de la qualité des eaux. Donc cette opération de reconquête de la qualité des eaux est en place depuis quelques années, elle est toujours en cours. Alors cette ORC, la problématique principale, c'est surtout, hein, de récupérer des parcelles qui seront sécurisées au niveau des pollutions, hein, que ce soit élevage ou pollution due à l'agriculture. Hein, donc c'est le cas c'est le cas essentiellement sur le secteur de Vingles. Hein. Vingles, c'est le captage le plus important de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, puisque le Vingles fournit à peu près le quart de l'eau de la cale. Alors je disais que 80% du sous-sol, une eau qui est en général assez bien nitratée, avec quelques pics de pollution en phytosanitaire, reste les 20%. Les 20%, c'est pas rien, ça fait un peu plus de 2 millions de mètres cubes par an. Les 20% proviennent d'une usine de potabilisation de l'eau de la Lys. Donc une adduction court depuis R sur la Lys jusque le secteur de Bully, Vermel, Grenet. Hein, on est en train d'ailleurs dans ce secteur-là de construire un nouveau réservoir d'eau pour récupérer cette eau. Donc voilà, c'est à la fois eau de nappe, et eau de surface.
Non, très bien, très bien. Alors si on peut maintenant, à partir de cette situation que tu viens de décrire, la photographie de la réalité de l'eau sur l'agglomération de Lens-Liévin, que fait Eau Secours ? Quelle est son activité vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis des habitants ? C'est quoi l'activité d'une association comme Eau Secours 62 ?
Bon, alors notre activité, c'est bien sûr, de ne pas mettre le nez, hein, sur des questions techniques de dépollution, etc., hein, de recherche de captage, etc. Hein, donc c'est pas ça du tout le problème. Mais enfin, on s'intéresse quand même, à ces aspects-là. On les lit dans les documents. Ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est que par rapport au nitrate, hein, donc une très forte pollution en nitrate, on a sur la cale, et c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, on a 6 unités de dénitratation, hein, sur la cale. 6. Alors que normalement, ces unités de dénitratation ne doivent être que très provisoires et ne doivent être accordées que sur 3 ans de façon à pallier à cette pollution. Alors que là, sur la cale, ça dure, hein, ce qui prouve que il n'y a pas d'autre solution, quoi. Voilà. Alors le rôle de ce que fait Eau Secours, c'est faire en sorte que les choses au niveau de la gestion ne soient pas tout à fait obscures, masquées. On essaye, hein, parce que on peut dire d'une manière générale, et je crois que plusieurs personnes le disent, beaucoup le disent, hein, que les élus à la cale n'ont pas la culture de la transparence, hein, et de la disons, du partage des documents, que ce soit, je pense que c'est assez vrai dans bien des domaines, hein, dont aussi le domaine de l'eau. Hein. Alors, juste une petite parenthèse, que fait une association comme Au Secours, ou une autre, hein, peu importe le nom, que fait une association qui veut s'intéresser à la façon dont est gérée l'eau sur une communauté? Alors, la première chose, c'est, lorsqu'elle est gérée en délégation de service public, c'est de se procurer les rapports annuels du délégataire. Hein, voilà. Les RAD, rapport annuel du délégataire, là-dessus, on trouve beaucoup de choses. Hein. On trouve, par exemple, tout ce qui est réalisé au niveau technique au cours de l'année. Et on trouve aussi un document qui est très intéressant et que l'on ne trouve que là, hein, c'est le bilan financier. Hein, c'est le bilan financier, c'est le compte annuel résultat d'exploitation de la multinationale. Hein, et ça, c'est très intéressant à connaître. Hein, on en parlera sans doute tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier document. L'autre document s'appelle le rapport sur la qualité, le rapport sur le prix et la qualité des eaux. Hein, ça, c'est un rapport que doit réaliser le président de la communauté, hein, les services du président de la communauté, hein, RPQS, hein, et que l'on doit trouver normalement assez facilement, au moins sur Internet, hein, et dans les mairies. Hein, ce qui permet là aussi d'avoir des renseignements sur ce qui se fait, sur le détail du prix de l'eau, de la facture. Voilà, donc deuxième document, RPQS. À noter que sur le RPQS, on ne trouve jamais le compte annuel résultat d'exploitation de Veolia. Et donc, uniquement ce RPQS, personne ne connaît le montant des bénéfices de la multinationale. Donc voilà, avec ces deux documents, on peut déjà, faire une information assez précise vis-à-vis des habitants. Donc voilà, voilà ce que peut faire une association comme Au Secours. J'indiquerai aussi qu'il existe au niveau de chaque communauté, hein, qui dépasse les 50 000 habitants, il existe une commission consultative des services publics locaux. Hein. Là, c'est la seule interface qui existe entre les élus, hein, et leurs décisions au niveau des services publics. Hein, quel qu'il soit, hein, c'est les transports, c'est l'eau, c'est le crématorium, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est la seule interface qui existe entre les élus et les habitants. Et donc, cette CCSPL se réunit une fois par an et ça permet d'avoir un contact, de poser des questions, même si pour les élus, c'est bien souvent... un passage obligé parce que c'est obligatoire, hein, et qu'ils essayent de faire au plus vite. Mais enfin, donc, les associations peuvent s'y intégrer. Donc, ça vaut le coup d'être souligné puisque les CCSPL sont remises sur la table après chaque élection municipale. Hein, donc, voilà, on essaiera, avec Au Secours, on va reposer la question de notre appartement, c'est à la CCCSPL, puisque ce sont les élus qui choisissent aussi les associations, hein, qui font partie de cette CCSPL. Donc, ils n'ont pas tellement l'habitude de choisir des associations qui soient un peu trop embêtantes ou regardantes. Hein.
Alors justement, à propos d'associations embêtantes et regardantes, donc la presse a reçu ce courrier, hein, donc à Microbel on l'a reçu également, ce courrier de Au Secours. Alors je lis le titre, hein, je ne sais pas si tu vas avoir envie de lire ou de développer, enfin le titre c'est « Eau et assainissement, les dirigeants de l'agglo de Lens-les-Vins méprisent les usagers ». Donc c'est quand même assez fort comme entame. Qu'est-ce qui vous a amené Au Secours à produire ce courrier ?
Alors, tout à l'heure, je parlais de manque de transparence, hein, au niveau au moins de la CAL, mais bon, je pense que ça existe aussi un petit peu ailleurs, mais pas partout. Hein. Par exemple, sur la communauté urbaine d'Arras, ils sont un peu plus, même si bon, on n'a pas les mêmes façons de voir, les mêmes idées, mais enfin, au moins au niveau de la transparence, on la trouve là. Alors, Manque de transparence, parce que tout à l'heure, je parlais des documents qui sont intéressants. C'est le rapport annuel du délégataire de Veolia. Il a fallu attendre 2 mois et plusieurs interventions pour obtenir ces rapports. Voilà, donc, il ne lâche pas facilement ses documents. Ou alors, peut-être que c'est de la négligence, je n'en sais rien. Mais enfin, toujours est-il que tout à l'heure, j'ai parlé d'une non-culture de la transparence, on en est là. Et puis, surtout, deuxième chose, c'est que le contrat avec Veolia de l'assainissement au niveau de la cale arrive à échéance à la fin de cette année 2020. Et donc, une expertise a été demandée par les services de la CAL, et la CAL a choisi de renouveler une délégation au service public. C'est tout ce que l'on sait. Donc, on a demandé plusieurs fois la remise de ce rapport d'expertise. On a demandé, le détail des débats concernant cette... c'est ce choix et tout s'est fait en catimini, ce qui fait que personne n'en a rien su. Et donc voilà, d'où cette lettre ouverte. Et cette lettre ouverte est motivée également par le fait que on a des bénéfices sur la cale. C'est pas le cas partout. On a des bénéfices de Veolia sur la cale qui sont vraiment exorbitants. Qui se monte à environ 6 millions d'euros par an, les bénéfices affichés, puisqu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont, moins transparents, comme les frais de siège. Donc, on a calculé que sur les 3 dernières années, on avait, pour les 3 contrats de la CAL avec Veolia, on trouvait 16 millions d'euros de bénéfices affichés, et 5 millions et demi de frais de siège, les frais de siège qui sont donc envoyés au siège de Veolia à Paris et sans aucune justification. C'est très difficile. Sans doute qu'il y a des frais de siège, mais enfin, on ne peut pas les justifier du tout. Donc voilà ce qui motive cette lettre.
Merci. Alors justement, au-delà de l'aspect un petit peu revendicatif et puis l'aspect protestataire, qu'est-ce que au secours aimerait avoir comme perspective sur l'agglo
pour l'avenir? Oula, bon, alors la première chose, c'est d'obtenir le document, et puis avec un petit peu d'expérience, on sait quels sont ce qu'il faut regarder essentiellement, les choses qu'il y a à retenir. C'est par exemple les rendements, etc. Bien, donc première chose, obtenir les documents. Ça veut donc dire demander la transparence, montrer qu'on est là, et demander la transparence, que des usagers regardent ce qui se passe. Alors maintenant, concernant une gestion publique, une possibilité de retour en gestion publique, que ce soit ici ou ailleurs, dépend de plusieurs choses. Alors, il faut d'abord une volonté politique assez forte. Donc, il faut qu'il y ait au moins quelques élus qui soient vraiment décidés à revenir en gestion publique, parce que ce n'est pas une mince affaire. Et puis, deuxièmement, il faut, un appui des habitants. Les élus ont bien souvent besoin d'être bousculés, d'être poussés par les habitants. Bon, ce qui fait que, on verra bien avec les résultats des municipales, par exemple, mais bon, voilà, c'est pas, c'est, disons que c'est, pour l'instant, la perspective est assez sombre. Ce que l'on peut dire également maintenant, ce qu'on peut souligner, c'est que les contrats de gestion avec Veolia, que ce soit sur le Boulonnais, sur la Rajoie, sur Hénin-Carvin ou sur la Cale, les contrats de gestion arrivent à échéance au cours de cette mandature, dans les 6 ans. Donc c'est 2023. 23, 24, 25, suivant les cas. En ce qui concerne la cale, je parlais tout à l'heure du contrat assainissement qui prendra fin à la fin de cette année, mais les deux autres, le contrat production d'eau et le contrat distribution d'eau, arriveront à échéance. Donc voilà, il y aura un œil à jeter là-dessus, sur la façon dont les choses seront débattues d'une manière la plus transparente possible dans ces différentes agglomérations.
Bien, Jean-Michel, merci. Notre émission va se terminer. Peut-être justement pour les habitants qui souhaitent un petit peu, comme tu disais, bousculer la réalité, bousculer un petit peu les décideurs à ce sujet-là. Comment est-ce qu'on contacte au secours? Il y a une adresse, un téléphone, un site internet?
Bon alors, le mieux, c'est le site. Hein. On a un site qui est, je pense, assez bien managé. Le site, c'est tout simplement au secours62.org, au secours 62 tout collé, .org. Alors on trouve là-dedans, une façon d'adhérer. Je dirais que certains sont assez réparbatifs concernant l'étude des dossiers, par exemple. Hein. Mais on a besoin aussi, une majorité des adhérents nous soutiennent sans participer activement, par exemple, à la lecture des documents. Hein. Mais maintenant, si on pouvait avoir des référents par secteur géographique à la période du Pas-de-Calais, ça, ce serait intéressant de pouvoir coordonner nos actions.
Eh bien, merci Jean-Michel. Donc, notre émission se termine. Hein. L'entretien avec toi a passé très, très vite. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.